Europe Soir Weekend, Christophe Pallais.
Tape sur nos systèmes, l'envie que tout le monde s'aime, le soleil donne.
Le soleil donne, et même s'il n'est pas le seul fautif, comment repenser la ville de demain pour faire face au réchauffement climatique ? Repeindre tous nos bâtiments en blanc, mieux maîtriser nos émissions à gaz à effet de serre, multiplier les espaces verts. Nos invités fourmillent de pistes, et alors que la journée de demain s'annonce comme la plus chaude jamais enregistrée en France, eh bien c'est un bain de fraîcheur que je vous propose d'ici 19h40 avec autour de cette table Magali Regezazit. Vous êtes maîtresse de conférence en géographie à l'École nationale supérieure et vous êtes membre du Haut Conseil pour le climat. Bonsoir.
Bonsoir.
Nathalie Alligret, bonsoir.
Bonsoir.
Directrice activité nationale grand projet développement chez Écuance. Et vous nous parlerez notamment d'un projet qui vous tient à cœur du côté d'Angers, je crois savoir. Et puis Julien Bigorgne, bonsoir.
Bonsoir.
Ingénieur environnement à l'APUR, qui est l'atelier parisien d'urbanisme. Alors, première question, comment repenser la ville et nos bâtiments pour les adapter à ces vagues de chaleur ? Déjà, est-ce qu'il y a bien des solutions ? Qui veut prendre la parole ?
Il y a plein de solutions. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a plein de solutions et qui vont de l'appartement au bâtiment, en passant par le quartier, la ville, l'agglomération. Donc on a aujourd'hui, notamment l'été dernier, un rapport du GIEC qui est paru et qui a évalué l'ensemble des solutions avec deux types de solutions. Il y a des solutions qui vont permettre de lutter contre les causes du changement climatique, donc de réduire les émissions en gagnant en efficacité, c'est-à-dire en faisant mieux avec moins, ou bien en sobriété aussi, c'est-à-dire en consommant moins. Et puis on a tout le reste qui est l'adaptation, parce que comme malheureusement on le voit aujourd'hui, le changement climatique est déjà là. Et donc on va pouvoir mettre en place des solutions qui vont permettre notamment de rafraîchir les villes, notamment d'être un peu moins sous ce dôme de chaleur, cet îlot de chaleur urbain, puisque vous le savez, hein, dans les villes en plus c'est la double peine, il fait déjà très chaud, et en plus la ville elle-même, parce qu'elle a été construite pas forcément comme il fallait par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, eh ben, il fait beaucoup plus chaud en ville qu'autour de la ville.
Nathalie Alligret, vous avez vous aussi des solutions ?
Exactement. Alors, on a tendance à dire que la ville de demain, elle existe majoritairement déjà aujourd'hui. Le Conseil de l'Ordre national des architectes disait que 80% de la ville de demain, de la ville de 2050, existait déjà aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'en fait, le sujet, il est entre nos mains. Il est sur de la rénovation des infrastructures urbaines, leur modernisation, afin d'en optimiser l'usage pour faire face à ces changements climatiques. Donc nous, on travaille sur l'efficacité énergétique, la gestion de la mobilité et le cadre de vie, avec en très bonne place la végétalisation.
Eh bien, très bien, on va voir justement ces trois volets, ça nous permettra de ne pas partir dans tous les sens. On va commencer avec l'énergie, on va donc vous interroger dessus, Julien Bigorgne, parce que vous n'avez pas pu parler jusqu'à présent. Ça veut dire quoi, améliorer notre efficacité énergétique pour demain ?
Alors, il y a un peu deux problèmes qui sont là. Vous avez les vagues de chaleur, donc en gros, c'est ce qui se passait il y a une semaine, on va dire 35 dans la journée, et puis la nuit, ça descend à 20 degrés. Ça, on s'est adapté la ville à ça, c'est-à-dire qu'on peut transformer les bâtiments, les espaces publics pour que ça, ce soit vivable. Par contre, il y a un autre problème qui arrive, c'est le dépassement des valeurs maximales, donc c'est-à-dire qu'on observe aujourd'hui des températures qu'on n'a jamais connues.
Ouais. Donc ça on va battre des records demain en France.
Donc voilà, on va battre des records. Donc le problème de tout ça, c'est que on risque de battre des records tous les ans. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand dans une ville il fait 45 ou 50 degrés. C'est ce qui s'est passé en Inde il y a pas très longtemps. Donc ça, c'est un autre type de solution, parce que si vous dites on va planter des arbres, c'est très très bien de planter des arbres. Simplement, quand il fait 45 ou 50 degrés, les arbres, ils sont comme vous et moi.
Ouais, ils meurent.
Ils ont un petit peu de mal à suivre la cadence. Donc il y a deux types de problèmes. Et il va bien falloir distinguer les deux, parce que le problème des extrémas, c'est-à-dire le problème de qu'est-ce qui se passe quand il fait 45 degrés, c'est un problème qu'on n'a jamais connu. Et donc les villes, globalement, et les espaces naturels ne sont pas adaptés à ça.
Ça veut dire quoi alors, Nathalie Alligret ? Améliorer l'efficacité énergétique ?
Alors l'efficacité énergétique, je vais donner deux exemples pour les villes. D'une part, l'éclairage public. Donc l'éclairage public représente 40% de la consommation en électricité des villes en France. Et donc on travaille sur de la rénovation de l'éclairage public et de la modernisation de l'éclairage public pour pouvoir s'engager sur des réductions de consommation
ça
en fonction de l'état du parc, entre 30 et 80% d'économie d'énergie.
Ça veut dire pour qu'il se déclenche au bon moment, par
Exactement.
Exemple le soir à la bonne heure, quand le jour a a commencé à vraiment tomber.
Alors, il y a ça, et ça, c'est des solutions qu'on connaît depuis longtemps. Il y a aussi la capacité à adapter l'intensité lumineuse en fonction de l'usage de l'espace public, de manière à ce qu'on éclaire là où il y en a besoin, qu'on éclaire en fonction de est-ce qu'on a un véhicule qui circule, est-ce qu'on a un cycliste ou est-ce qu'on a un piéton qui circule. Et on va adapter l'éclairage en fonction de ces usages-là. Pour Angers-Loire Métropole, on s'est engagé sur 66% d'économie d'énergie sur l'éclairage public. Donc, c'est-à-dire qu'on va rénover 30 000 points lumineux sur les 50 000 points lumineux avec des LED et avec ces solutions qui permettent de totalement adapter l'éclairage en fonction de l'usage. On travaille aussi sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Toujours pour Angers-Loire Métropole, sur les bâtiments publics, on s'engage sur 20% d'économie d'énergie. 20% d'économie d'énergie en travaillant sur la mesure de la consommation, donc électricité, gaz, la ventilation, toute l'énergie consommée par les bâtiments, de telle sorte qu'on va pouvoir ensuite optimiser la consommation en fonction du taux d'occupation dans ces bâtiments-là pour consommer juste quand il y en a besoin. Et ça, c'est une des économies d'énergie qui peuvent encore être amplifiées quand on passe à des actions de rénovation énergétique plus fortes. Mais on voit que déjà, avec le digital, avec le numérique, on arrive à avoir un impact positif sur les bâtiments.
Magali Reguezazit, ça va permettre aussi d'améliorer justement le logement pour tous ceux qui ne sont pas dans des conditions satisfaisantes ?
Exactement, parce que quand on parle d'énergie, on parle aussi de précarité énergétique. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos concitoyens qui souffrent de cette précarité énergétique. Alors dans l'énergie, il y a effectivement l'électricité, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi notamment le chauffage, qui est très important l'hiver. Donc on voit qu'aujourd'hui, on a des Français qui ont froid l'hiver. Donc en fait, quand on va rénover un logement, on va pouvoir gagner en efficacité, notamment par la rénovation énergétique et thermique.
Oui, c'est d'éviter les fameuses passoires thermiques.
Exactement.
Il y a, je crois, en France, 700 000 logements à rénover par an. Enfin, c'est l'objectif, en tout cas.
Alors, en plus, au début, on faisait ça pour l'hiver. Et puis, on se rend compte que l'été, on a aussi un problème de confort thermique, parce que généralement, quand votre maison est une passoire thermique, l'été, vous avez très, très chaud dans votre appartement. Et donc, en fait, l'idée, c'est aussi de profiter de cette occasion pour faire en sorte que les populations qui sont mal logées, elles puissent profiter de la rénovation pour pouvoir moins dépenser, vivre mieux. Et derrière, vous avez des tas d'options et d'améliorations, notamment du côté sanitaire. Parce qu'évidemment, une personne âgée ou une personne dépendante qui va vivre dans un logement qui l'été permet le confort, ça va être moins de climatisation, donc moins de consommation. Et donc, en fait, vous engagez des tas de cercles vertueux. Il y a un autre point de la rénovation énergétique, c'est la voiture thermique. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'énergie qui est consommée pour les mobilités. Et la précarité énergétique, ce n'est pas uniquement le chauffage ou l'électricité, c'est aussi quand on se déplace. Et là aussi, vous avez des tas de gens qui, aujourd'hui, doivent aller travailler tous les matins. Ils vont aller travailler demain avec des températures épouvantables. Et donc derrière, quand on va transformer aussi la voiture, ça va permettre d'aller avoir des mobilités plus douces, plus décarbonées, plus agréables. Et donc là aussi, l'idée, c'est d'engager des cercles vertueux en faisant des économies d'énergie, de portefeuille, en améliorant sa santé et sa qualité de vie.
Restons sur l'énergie et nos bâtiments. Est-ce qu'il faut faire comme en Italie, c'est-à-dire limiter nos climatiseurs à 25 degrés, enfin, c'est ce qu'ils ont choisi chez eux.
Je suis désolée de le dire brutalement, mais il va falloir arrêter un moment la climatisation. En gros, la climatisation,
on va faire comment ?
Alors justement, il y a plusieurs solutions. D'abord, il y a des endroits où on ne pourra pas se passer de climatisation. Vous en avez besoin dans certains endroits. Je travaille dans des laboratoires où on a besoin de climatisation, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Mais quand on met de la climatisation, le problème, c'est qu'en faisant une solution, on aggrave le problème. C'est un peu comme si vous aviez une blessure, voyez, vous mettez un pansement souillé sur la blessure, au lieu de vous soigner, ça vous fait une gangrène. Et donc quand vous avez un climatiseur, vous rejetez de l'air chaud dans la rue, et donc vous aggravez à nouveau l'îlot de chaleur, vous consommez de l'électricité, et donc vous n'êtes pas dans la bonne démarche. Et donc l'idée, c'est que quand vous avez une maison très bien isolée, et il y a des gens dans le sud de la France, par exemple, ils ont des gros murs, ou dans l'est de la France, vous savez, les vieilles maisons, ils n'ont pas besoin de climatiseur. Donc si votre maison, elle est bien isolée, confort d'été, le climatiseur, il n'y en a plus besoin et on peut le réserver pour vraiment ceux qui en ont besoin parce qu'il y a des endroits où on ne pourra absolument pas s'en passer.
Alors Nathalie Allégret, comment vous allez faire si Magali ne veut plus qu'on installe des climatiseurs ? Vous y renoncez ? Vous avez une autre solution ?
Alors en fait, sur le confort d'été, c'est vrai qu'il y a effectivement des solutions aussi de réseau de froid qui permettent du coup de ne pas passer par l'électricité, mais plutôt d'avoir un réseau qui distribue le froid. Donc on a ça dans certaines villes en France, et notamment à Paris ou dans le sud de la France. Ça peut être une solution qui peut se développer. On travaille aussi, puisque voilà, il y a ces bâtiments qui sont au milieu, comme ça a été dit en introduction, de quartiers, de villes, etc., sur comment est-ce que finalement, eh bien, on peut apporter de la fraîcheur, qu'on soit dans la rue, à l'intérieur des bâtiments. Et là, on arrive sur la question aussi de cet espace public dans lequel soit on est à l'intérieur des bâtiments et se pose la question de la climatisation, soit on est à l'extérieur et il faut aussi pouvoir vivre à l'extérieur des bâtiments. Et là, pas question de clim, évidemment, mais plutôt de pouvoir travailler sur, justement, là, actuellement, on vit cette canicule et on cherche, quand on est dans les rues, dans une ville, on cherche à avoir de l'ombre, etc. Et donc là, on pense effectivement aux arbres, ce qui est une bonne solution, comme ça a été dit, mais une solution aussi qui nécessite de s'en préoccuper, de savoir où est-ce qu'on plante ces espaces verts, ces arbres. Et pour ça, nous, on travaille sur, pour Angers-Loire Métropole, pour garder cet exemple, sur un modèle 3D de la ville, un jumeau numérique qui nous permet de faire des simulations, enfin déjà d'analyser la situation et les projections de température avec les projections sur le type d'habitants qu'on va avoir avec l'âge de la population, etc. Et ensuite, une fois qu'on a cerné là où étaient les zones prioritaires sur une ville, eh bien de pouvoir aussi faire des simulations de l'impact de végétalisation et de ce qu'on va pouvoir gagner en termes de degrés en moins sur cet espace public grâce à justement des espaces verts. Ça pose la question après de l'entretien de ces espaces verts, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plein d'espaces verts et donc, il y a vraiment une question sur laquelle les équipes des collectivités travaillent d'arrache-pied quand ils ont en charge les espaces verts. C'est comment est-ce qu'on peut planter...
Bah oui, planter alors que, quelles espèces ?
Quelles espèces, donc de faire les bons choix en termes de captation carbone, de fraîcheur, de pouvoir bien les entretenir et puis de faire aussi attention à la consommation d'eau. Là aussi, on déploie des solutions qui nous permettent de mesurer finalement ce qu'il faut comme besoin d'eau pour les espaces verts et de comme ça s'engager toujours pour Angers-Loire Métropole sur une réduction de la consommation d'eau pour les jardins et les parcs de 30%. Parce que là aussi, on pourrait se créer un autre problème qui serait la gestion de l'eau pour tous nos besoins.
Oui, j'ai vu un chiffre, Julien Bigorne, je voulais que vous me disiez ce que vous en pensiez. Il paraît qu'entre deux boulevards dans Paris, un boulevard où il y a des arbres plantés de chaque côté et un boulevard en bitume, on peut gagner 10 degrés.
Alors, 10 degrés, c'est beaucoup, mais effectivement, 3-4 degrés, sans problème.
D'accord.
Sans problème. Donc là où vous êtes pile dans ce qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire quelque chose finalement qui va se jouer d'une rue à l'autre. C'est-à-dire que vous avez le parcours en plein soleil, en fait c'est insupportable. Et puis vous empruntez l'allée de Tilleul qui vous fait un ombrage parfait, vous êtes bien, même s'il fait plus de 30 degrés. Donc ça c'est vraiment un point essentiel et c'est vrai que les arbres en ville, on ne peut pas s'en passer. Alors après il faut rappeler quelque chose, c'est que les problèmes sont maintenant, un arbre vous le plantez, il va faire de l'ombre dans 20 ans. Hein.
Donc, oui, le problème aussi c'est qu'il y avait des arbres existants dans les villes, enfin normalement les plans... locaux d'urbanisme sont censés protéger tous les espaces naturels en principe.
Le problème, c'est que ces arbres, ils vont mal en ce moment. Ils vont mal à cause du changement climatique et on le voit dans beaucoup de villes, même là à Paris, on voit en fait des feuilles dans Paris, on se dit mais on est l'automne, c'est-à-dire on voit des feuilles jaunes, etc. Ils sont aussi attaqués par des tas d'insectes qui arrivent. Et donc le problème, c'est ce qui a été dit, c'est de trouver la bonne espèce qui va, un, pouvoir grandir malgré ces vagues de chaleur, et deux, être adaptée. Et trois, on oublie aussi un petit point, c'est que ces arbres, ils vont créer des pollens. Et qu'aujourd'hui, on a une augmentation des allergies. Donc en fait, on a aujourd'hui des chercheurs qui travaillent dans la France entière et qui observent in situ, dans les sites, et qui se disent, tiens, là, on a mis telle espèce, ça marche bien. Et donc, on va aussi orienter. Et puis parfois, on ne met pas que des arbres. On va par exemple mettre de la végétation rase pour couvrir le sol. On va aussi faire des circulations d'eau tout autour. Et ça va vraiment dépendre des villes. On va aussi pouvoir peindre autour la chaussée. Donc il y a plein de solutions qui vont exister, qui vont être adaptées par rapport à l'histoire des villes et par rapport à ce qu'il y a en dessous.
Les routes en blanc, les routes peintes en blanc, du bitume blanc, c'est possible? Et est-ce que ça peut tenir? Parce que si on roule dessus, à mon avis, il va vite se salir.
Alors aujourd'hui, on a fait d'énormes progrès là aussi dans ce qu'on appelle les enrobages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des revêtements qui sont des revêtements d'abord plus bio, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de bitume, de matière négative, ça pollue moins, et puis surtout c'est beaucoup plus clair. Et on voit aujourd'hui maintenant un peu partout, par exemple des pistes cyclables qui sont beaucoup plus claires. On voit des toits qui commencent à être plus blancs, on voit des façades qui sont aussi, c'est ce qu'on appelle l'albédo, hein, ça permet simplement de refroidir. Quand vous allez en Grèce, vous savez ces belles photos qu'on voit
sur les îles,
exactement.
Paros,
c'est
Poros,
pas
et
juste qu'ils, alors c'est pas qu'ils sont très propres et qu'ils arrivent à tenir ça tout blanc, hein, c'est pas non plus qu'ils adorent le blanc, voilà, c'est juste parce que c'est hyper efficace. Si vous vous baladez dans des rues du sud de la France, vous allez voir, hein, dans les petites rues ombragées, tout ça, il fait beaucoup, beaucoup moins chaud. Alors évidemment, le problème, c'est que ces rues et toutes nos villes, en fait, elles ont été construites par rapport à un climat. Et que là, on est quand même en train de changer de climat. Donc quand vous voyez que le climat de Bordeaux arrive à Paris, Paris n'a pas été conçu pour faire face au climat de Bordeaux. Mmh. Nice n'a pas été conçu pour faire face au climat d'Alger. Donc en fait, c'est ça qu'il va falloir faire. Et comme il a été dit, on a un héritage à travailler. Mais c'est assez fantastique, en fait, parce qu'on a une histoire, on a une ville à transformer tout en gardant son âme, en faisant un projet urbain. Derrière, il y a de l'emploi, il y a de l'innovation, il y a du lien social. Donc ça peut être un projet hyper important et on le voit dans les villes. Hein. Les villes qui y vont, elles en tirent des bénéfices, vraiment.
Julien Bigorne, est-ce que vous êtes prêt à repeindre tous les toits de nos bâtiments en blanc ?
Non, je suis pas. Alors, je suis pas un grand fan du blanc. Je vous avoue que c'est...
C'est ce que j'ai cru voir sur votre regard.
Ouais. Non, mais ça... Alors déjà, parce qu'on a parlé des arbres juste avant, donc si vous peignez tout en blanc, vous allez voir que les arbres ne vont pas pousser, ce qui va poser un petit problème, parce que si vous peignez tout en blanc, ça fait de la réflexion, donc ça vous éblouit, mais simplement, l'arbre, ça va le brûler. Donc si vous le plantez, il ne va pas pousser. Donc effectivement, les villes auxquelles vous faites référence en Grèce, il n'y a pas beaucoup d'arbres non plus. Mm-hmm. Donc c'est aussi la question de l'entre-deux. Une ville, les villes pierre calcaire comme Paris, c'est des villes qui sont relativement claires, et aller tout replaquer en blanc pimpant, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la meilleure solution. Par contre, il y a un sujet qui est très important, c'est la question du sol, c'est la question de l'imperméabilisation du sol. En fait, c'est ça le sujet, plus que la couleur. La couleur, vous l'avez dit aussi, c'est-à-dire que le blanc ne reste jamais blanc. Donc en ville, ça va devenir gris, donc en gros, vous allez courir après un truc qui ne va pas marcher. Par contre, la question qui est très importante, c'est la question de l'infiltration de l'eau tout au long de l'année. Parce que si les arbres vont mal en ville, c'est parce que globalement, ils sont plantés dans une fosse qui est toute petite et surtout, c'est imperméabilisé tout autour. Donc la question de la biodiversité, elle arrive tout de suite. En gros, c'est si vos arbres ont accès à un cycle de l'eau normal, c'est-à-dire en gros, est-ce, quand il pleut, est-ce que l'eau va bien pénétrer dans le sol ? Auquel cas, l'arbre, il va passer un peu mieux les périodes de stress hydrique. Il y avait un point aussi qui était important et qui revient souvent en ce moment, c'est la question de... On va essayer de changer les essences d'arbres. On va essayer de trouver la bonne essence. Alors ça, il faut vraiment se méfier des champignons parce que ça, c'est le truc pareil, c'est on va essayer de trouver quelque chose qui fonctionne bien. L'idée, c'est que les arbres en ville, ils font écosystème. C'est-à-dire que si vous mettez une seule essence, c'est comme de la monoculture, c'est comme un champ de maïs, vous allez avoir zéro biodiversité. Mmh. La biodiversité, ce n'est pas pour faire joli, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que la biodiversité, ça participe au fait que les arbres vont rester en bonne santé.
Donc, alors, quelles sont les espèces que vous nous préconisez ?
Ça, c'est le gros débat. C'est-à-dire qu'en gros... Alors, gros débat, c'est-à-dire que personne n'est d'accord. Mais en gros, les termes du problème, c'est ça. C'est que historiquement, dans les villes, en général, on plante pour des raisons paysagères. C'est-à-dire que vous allez faire un alignement de platanes et vous allez planter que des platanes. Effectivement, ce qui arrive aujourd'hui, c'est plutôt l'idée de diversifier. C'est-à-dire qu'on va... Plutôt que de faire partout la même chose, on va essayer de planter un sur deux. Platane, marronnier, érable, tilleul, etc. On va essayer de mélanger. Donc déjà, d'un point de vue paysager, dans une ville historique, ça pose des sérieuses questions. Mais ce n'est que des questions paysagères. Après, effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les arbres, il y a des arbres qui ne se comportent plus bien du tout. Donc on ne va plus pouvoir les planter. Donc ça, c'est une certitude. Il y a des arbres qui, aujourd'hui, c'est pour lesquels c'est terminé. Donc l'épicéa, il n'y en a pas à Paris, mais bon, peu importe, c'est un arbre qui a été planté beaucoup en plaine, qui est planté en montagne. L'épicéa, pour lui, c'est terminé. L'être, le charme, tout ça, on ne peut plus pouvoir les planter. Effectivement, vous avez des essences méditerranéennes, je pense aux micocouliers, tous les érables, les arbres comme ça, ils se comportent très très bien à Paris. Le platane, pareil. Donc c'est des arbres qui posent beaucoup de questions parce qu'ils sont là et en même temps, vous promenez en automne, vous allez voir c'est quoi le problème des platanes. Vous avez des feuilles partout qui ne se dégradent pas. C'est-à-dire que en fait, les arbres ne font pas partie du cycle naturel. C'est-à-dire que c'est des arbres qui sont relativement étrangers, qui ne font pas tellement écosystème. Et donc ça renvoie à la question que j'ai amenée tout à l'heure, qui est le fait que pour que les arbres vivent bien en ville, il faut quand même essayer au maximum de penser des sols de qualité, penser le cycle de l'eau tout au long de l'année. Donc c'est plus... l'eau, finalement, ça s'écoule sur les trottoirs, ça va dans les égouts et c'est considéré comme un déchet. Ça, on ne peut plus faire ça. Donc, ça veut dire que l'eau, tout au long de l'année, il faut la valoriser et absolument zéro eau dans les égouts. Parce que sinon, on ne passe pas l'été. C'est-à-dire que les arbres, ils sont en souffrance et en fait, le rafraîchissement qu'on va invoquer pour les arbres, il ne va pas marcher. Si l'arbre, il est en stress hydrique depuis 3 saisons, il ne va rien apporter comme rafraîchissement. Donc, voilà.
Est-ce que vous êtes aussi de l'avis que nous partageait tout à l'heure Nathalie Allégret, c'est-à-dire que 80% des solutions existent déjà ?
Alors, j'en sais rien, je ne suis pas devin. Non, l'idée, c'est que je, quand on a
Est-ce que vous êtes prêt à faire avec ces solutions-là ou est-ce que vous dites qu'il faut tout réinventer ?
Non, 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 je pense qu'il faut réinventer beaucoup de choses, mais surtout réinterroger les pratiques actuelles. C'est-à-dire que moi, je pense que dans les pratiques actuelles, il y a énormément de très mauvaises choses qui sont encore colportées.
Donc, quoi, par exemple ?
Je pense aux techniques constructives des bâtiments. Aujourd'hui, elles sont très performantes en hiver. C'est une catastrophe en été. Donc ça, il faut le dire et le redire. Aujourd'hui, vous avez une réglementation thermique qui est passée. Il va faire quoi, 44 demain, degrés demain ? Aujourd'hui, la réglementation thermique, c'est quoi ? C'est les normes pour le logement neuf. Un logement neuf, aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va connaître 44, 45, 46, etc. Aujourd'hui, il y a une mesure très simple, je vous la donne, qui n'est pas dans la réglementation. C'est on doit obligatoirement prévoir les systèmes de refroidissement pour ces bâtiments-là. Quand il va faire ces extrêmes-là ? Parce qu'aucun bâtiment ne peut supporter 44, 45, 46 degrés. Par contre, il y a un autre point qui est qu'un bâtiment, s'il est bien conçu, il peut sans problème passer des épisodes à 35 degrés pour peu que la température baisse la nuit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les murs épais comme dans les bâtiments anciens. Ça veut dire des protections solaires type des volets, des stores et surtout pas des protections intérieures au logement. Ça fait des fours. Hein. Et surtout, des grandes hauteurs sous plafond. Ça ne se fait pas aujourd'hui.
Voilà. Mais ça, c'est possible ?
Ça, c'est possible. Il suffit de le décider. Oui. Il suffit de le décider. Simplement, la réglementation, si vous voulez, elle vous dit
oui,
pas.
Mais on fera moins d'étages. Plus
ouais,
haut,
enfin, faut savoir dans quelles conditions vous voulez vivre. Mais simplement, c'est de l'architecture traditionnelle tropicale. Hein. C'est-à-dire que vous faites des étages de 3 mètres de hauteur sous plafond. Il n'y a que comme ça qu'on ventile correctement et qu'on peut vivre sans climatisation, si vraiment c'est ça le but.
Et j'ai même lu qu'il fallait empêcher maintenant la construction d'immeubles de grande hauteur pour permettre à l'air de circuler. Partout au-dessus de la ville. Vous en pensez quoi, Magali Guérin-Zazit ?
Une des raisons, effectivement, des lots chaleur urbains, c'est vraiment la forme de la ville. Donc la hauteur des bâtiments, la manière dont les rues sont conçues. Et donc c'est pour ça, là aussi, que quand on va rénover et renouveler, on ne peut pas juste se contenter du logement ou du bâtiment. On a besoin d'avoir vraiment une vision sur l'ensemble du quartier, voire au-delà, et qui va intégrer les espaces verts, les mobilités, les espaces publics, la manière aussi dont on va répartir les fonctions. Parce que derrière, il y a aussi un enjeu à nouveau, c'est de maintenir des villes qui sont vivables toute l'année. Et quand je dis vivable, c'est par rapport à nos traditions et notre culture, c'est d'avoir des espaces publics dans lesquels on peut avoir de la mixité sociale, de la mixité générationnelle, prendre en compte le petit commerce, etc. Donc il y a aussi des enjeux économiques forts. Et donc l'idée, c'est effectivement par rapport... On a des villes qui sont... Paris, par exemple, c'est une abomination en termes d'îlots de chaleur urbain quand on fait les études, parce qu'elle a été construite de telle façon que ça amplifie vraiment les températures. Et vous avez des différentiels énormes d'une rue à une autre, voire d'un quartier à une autre.
Alors la ville de Paris, visiblement, en a pris conscience, puisque le Conseil de Paris a voté très récemment, vous avez dû le lire, la création d'une mission d'information et d'évaluation Paris à 50 degrés. Est-ce que ce n'est pas trop tard ?
Alors Paris est précurseur, parce que Paris a voté il y a quelques années, à l'unanimité du Conseil de Paris, une stratégie de résilience dans laquelle il y avait déjà cette question du changement climatique. En plus, ces villes, elles ne sont pas exposées qu'au changement climatique. Il y a des inondations, il y a du terrorisme, il y a tout ce qu'on veut en termes de risques. Et donc l'idée, en fait, c'est d'avoir du multirisque. Donc ils ont avancé, mais là aussi, on a plein de problèmes à Paris. On a parlé des bâtiments anciens, ça ne se rénove pas de la même façon. On n'a pas parlé, mais sous nos pieds, les Parisiens, ils ont à peu près 8 étages de sous-sol enterrés. Donc ça veut dire que quand vous touchez les sols, il peut se passer des... Voilà, il y a des choses qui circulent dans les sous-sols. On a aussi effectivement des endroits qui sont patrimonialisés. Vous ne pouvez pas aujourd'hui enlever les pavés des berges de la Seine parce que c'est patrimonialisé. Donc on ne peut pas végétaliser comme on veut. Donc après, on a effectivement des municipalités qui sont très en avance parce qu'il y a des histoires dans ces municipalités. Je pense à la ville d'Angers, à la ville de Lyon, etc. Ils ont mis très tôt des agendas 21. Il y a des villes qui ont complètement changé leurs pratiques. Je pense à la ville de Nice. En 20 ans, on a mis un tram, on a fait des écoquartiers, enfin, on a avancé. Il y a des villes qui ont aussi, alors qui étaient déjà peut-être plus favorisées, celles qui ont fait les tramways très tôt ou quoi. Il y a des villes qui sont en retard et qui sont d'autant plus en retard certaines que, par exemple, quand vous êtes dans des villes qui ont connu des graves crises économiques, qui ont connu des graves crises sociales, c'est beaucoup plus difficile parce que les finances publiques, elles ne suivent pas. Et donc, quand vous avez un parc de logements très ancien, avec du chômage, avec des taxes qui ne reviennent pas, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, que quand vous êtes dans des communes plus riches, avec des gens qui vont beaucoup voter et qui disent au maire, maintenant, il faut un peu se bouger, quoi.
Alors, Nathalie Allégret, vous qui travaillez pour Equance, je sais que vous travaillez sur de la ville connectée. Qu'est-ce que peuvent nous apporter vos applications ?
Exactement. Alors, du coup, nous, au sein d'Equance, on fait partie du CERS, qui rassemble les entreprises qui travaillent pour la transition énergétique et la transition numérique. Et effectivement, alors, en termes de connectivité, il y a tout l'aspect télécommunication qui permet de développer beaucoup des solutions et de rendre possible ce qui auparavant l'était peu ou pas. Mais il y a également la connectivité dont on a parlé autour de la mobilité qui permet de connecter des citoyens, des travailleurs, des touristes, des personnes de passage à des villes
ou à des territoires. Aussi, ça et peut jouer.
Alors, on peut tout à fait coupler effectivement la dimension santé avec la dimension mobilité. Prenez par exemple des journées de pic de pollution, puisqu'on commence à connaître ça sur certaines villes en France. On peut avoir des personnes qui aiment se déplacer en vélo et qui font ce choix et qui peuvent avoir quelques réticences à ces jours-là prendre le vélo. Eh bien, on a développé une solution qui leur permet d'avoir le trajet, on leur trouve le trajet qui leur permet d'éviter les zones les plus polluées dans la ville tout en étant sur un trajet sécurisé.
Ben, y a du travail, nous ne sommes pas au bout de nos peines. Merci beaucoup à tous les trois puisque... Vous avez enrichi ce débat, c'était passionnant. Je crois qu'on aurait pu faire 20 minutes de plus. On va tout de suite retrouver le Club Tour avec Axel May, Richard Virenque. Bonne semaine à tous et bonne soirée sur Europe 1.